Bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver dans des conditions qui sont un petit peu meilleures que celles qu'on avait auparavant en visio et qui empêchent un petit peu les échanges notamment. Donc, même si vous êtes nombreux, n'hésitez pas à intervenir. Alors, aujourd'hui, on va avoir un cours sur la technique qui va revenir un petit peu sur quelques éléments qu'on avait pu voir dans la première séance sur la question du rapport entre la science et la société. Mais on va voir que il y a une dimension un petit peu en filigrane qu'on n'a pas vraiment abordée dans la première séance, qui est la question de la neutralité de la technique. Vous savez que ça, c'est une grande question qui va faire l'objet de plusieurs controverses, notamment de philosophes des sciences aussi, mais de philosophes tout court. Et donc, on va s'intéresser à ce rapport entre technique et société, technique et politique, avec trois grands moments. Dans un premier temps, je vais problématiser la notion de technique et voir en quoi son interprétation peut porter à des controverses. Dans un deuxième temps, je ferai une généalogie rapide de la notion de technique, surtout par rapport à l'émergence de ce qu'on appelle la modernité. Et enfin, dans un troisième temps, je m'attarderai un petit peu sur les penseurs qui vont critiquer la technique en tant que telle, notamment dans nos sociétés contemporaines. Alors, dans un premier temps, donc sur la problématisation de la notion de technique. Alors, tout d'abord, dans le sens commun, on va supposer que c'est par la technique que la société va exercer son emprise sur la nature. Alors, ça, c'est une sorte de lieu commun qu'il y a, qu'on va retrouver dans beaucoup de pensées, avec cette idée que la technique va médiatiser. La technique va être une sorte de média entre l'homme et la nature. Donc entre l'homme et la nature, autrement dit, entre la société et la nature. Donc la technique va être une interface. Ça va être une interface . Après va se poser la question de ce qu'on appelle la technique. Est-ce que la technique n'est qu'un moyen matériel, ou est-ce que la technique, ça peut aussi être des idées? Un exemple tout simple, il y a l'idée que le droit, par exemple, peut être considéré comme une technique. Le droit va être considéré comme une technique dans la mesure où il va pouvoir mettre en relation aussi des éléments de la nature et des sujets, ou des sujets entre eux. Donc le droit va pouvoir être considéré comme une technique, puisque ça va être aussi un média. Dans les temps plus reculés, est-ce que la magie, par exemple, n'est pas une technique? puisque certains vont considérer que la magie, et bien précisément, ça va être une des premières expressions de l'homme pour commencer à dominer la nature. L'homme va inventer des rituels, des formules incantatoires, des incantations. La célèbre formule abracadabra, est-ce que ce n'est pas un moyen pour influer sur la nature, pour obtenir un pouvoir sur elle? Vous voyez que la technique ne se réduit pas nécessairement à un moyen matériel. Alors néanmoins, il y a un courant dominant dans l'histoire de la pensée de la technique, qui est le courant dit du fonctionnalisme. Le fonctionnalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le fonctionnalisme? C'est l'idée que les institutions d'une société avec ses techniques, les institutions d'une société avec ses techniques, eh bien, sont relatives aux besoins vitaux de la société. Donc, la technique, elle va se développer pour assurer la reproduction et la subsistance de la société. Et ça, y compris pour les sociétés les plus anciennes. C'est-à-dire qu'on va considérer, par exemple, qu'un rituel, au sens technique du terme, eh bien, perdure pour que la société puisse se reproduire en fonction de ses besoins. Alors, d'une certaine manière, cette idée du fonctionnalisme, on va la retrouver à l'extrême chez un penseur que vous connaissez tous au moins de nom, qui est Karl Marx. Karl Marx, donc ce célèbre théoricien du communisme, et plus précisément du socialisme scientifique. Alors pour lui, la technique est un élément fondamental, puisque dans son esprit, c'est le rapport de l'homme à la nature qui va déterminer l'histoire. C'est le rapport de l'homme à la nature qui va déterminer l'histoire. Puisque l'homme est un être, avant tout, qui travaille. C'est un être qui travaille et qui, donc, pour assurer sa subsistance, eh bien, a besoin d'exploiter la nature. Or, pour Marx, pour comprendre une société, eh bien, il suffit d'observer les moyens techniques qu'elle emploie. Puisque ces moyens techniques, qui sont avant tout des moyens de production, puisqu'il s'agit d'exploiter la nature, ces moyens techniques, eh bien, vont déterminer l'ensemble des rapports sociaux. Ces moyens techniques vont déterminer l'ensemble des rapports sociaux. Alors, ces moyens techniques, Marx les regroupe sous le nom d'infrastructures. Il les regroupe sous le nom d'infrastructures. Et ils vont déterminer donc ce que Marx appelle la superstructure. Donc la superstructure, c'est tout ce qui ne va pas relever de ce de ces moyens techniques. Donc ça va être la religion, le droit, la politique, plus particulièrement l'État. Mais alors là, vous voyez déjà que Marx, par exemple, eh bien, il ne va pas inclure le droit dans la notion de technique. Alors pourquoi il n'inclut pas le droit dans la notion de technique? Eh bien, parce que lui, pour lui, le droit n'est pas lié, directement en tout cas, à la production. Donc pour qu'il y ait technique, il faut qu'il y ait directement un rapport à la nature qui va dégager un produit. Donc pour lui, la magie n'est pas non plus une technique, à proprement parler. Parce que la magie ne produit rien de matériel. Elle a certes une influence sur la nature, mais elle ne produit rien de matériel au sens concret du terme. Les individus dans les temps anciens, dans les sociétés premières, peuvent croire que la magie permet de produire. Hein, par exemple, par une formule, certains vont croire que la pluie peut tomber ou que des champs peuvent donner du blé. Ils pensent que c'est grâce à la magie. Mais Marx va dire que cela relève de l'idéologie ou de l'illusion. Donc c'est pour ça qu'il insiste sur le terme de socialisme scientifique. C'est que pour lui, il veut ramener la technique à quelque chose de très concret, de très matériel. C'est ce qui va produire. À produire des biens de subsistance. Donc ce qui va permettre à un champ, par exemple, de donner du blé, c'est parce qu'on utilise des outils pour le cultiver. Hein, donc c'est ces outils qui vont être déterminants. Ce n'est pas une formule magique qui va le permettre. Donc pour lui, il y a cette idée que la technique va déterminer l'ensemble des rapports sociaux et que, en observant ces moyens techniques, eh bien, on a une idée du régime global dans lequel on est. Donc il a ces phrases, notamment dans le Capital, où il dit que en regardant un moulin à vent, eh bien là, on a l'image de ce qu'est la société du Moyen-Âge. Avec tout son régime de production. Et qu'est-ce qui va succéder au moulin à vent ? Machine à vapeur. Et là, la machine à vapeur, eh bien, va montrer que nous sommes dans une société industrielle. Donc, avec des prolétaires et des bourgeois. Et donc, avec des rapports de classe. Hein, donc pour Marx, la technique, dans une certaine mesure, elle est neutre. Elle va évoluer selon le sens de l'histoire. Donc la technique n'est qu'une accumulation de savoir qui va permettre à l'homme de maîtriser totalement la nature. La technique est une accumulation de savoir qui va permettre à l'homme de maîtriser totalement la nature. Donc chez Marx, il n'y a pas du tout d'ambivalence de la technique ou de critique de la technique. Au contraire, dans l'idée qu'il se fait du communisme à venir, ça va être une société qui aura complètement, qui sera allée jusqu'au bout de ce qu'elle peut au sens de maîtrise de la technique et donc maîtrise de la nature. La société communiste est une société où l'homme est complètement émancipé de la nature grâce à la technique. Donc la technique, dans l'histoire, est avant tout un instrument d'émancipation. C'est un instrument d'émancipation de l'homme par rapport à la nature. Donc il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal. Il s'agit de faire un constat, tout simplement. De même pour lui, il ne s'agit pas de dire que le capitalisme est bien ou mal. C'est un fait, c'est un stade historique qui sera de toute manière dépassé de manière inéluctable. Donc c'est en cela qu'il y a une neutralité de la technique, c'est qu'elle va obéir à une nécessité. Elle obéit à une nécessité, donc il n'y a pas de jugement critique à avoir sur la notion de technique. Elle obéit à une nécessité, à un mouvement historique. Point barre. Mais elle a toute son importance dans la mesure où elle détermine l'ensemble des rapports sociaux. Alors évidemment, il y a des critiques de cette conception de la technique. Alors déjà, est-ce que toutes les techniques suivent le même processus historique? Est-ce que toutes les sociétés vont considérer l'amélioration, ou ce qu'on considère comme l'amélioration d'une technique, comme une nécessité? Eh bien, ce n'est pas si sûr. Alors, pour une raison assez simple, c'est que l'école fonctionnaliste ou le marxisme vont avoir la même définition des besoins. On disait que la technique consiste avant tout à remplir des besoins, les besoins de l'homme. Et tout aussi bien l'école fonctionnaliste que l'école marxiste va considérer que les besoins de l'homme vont de soi. Ils vont de soi dans la mesure où ils vont aussi suivre une ligne progressive dans l'histoire qui relève de la notion d'accumulation. Autrement dit, l'homme va être un être de désir qui veut toujours accumuler davantage. Donc ses besoins seraient toujours plus importants. toujours plus grandissant. Et ça, c'est pas si évident. Est-ce que là, ces auteurs ne plaquent pas une certaine idéologie moderne sur d'autres modèles de société? Si on reprend les sociétés premières, par exemple, on va retrouver beaucoup de cas où ces sociétés refuseront un certain type d'outils, comme par exemple le filet de pêche, hein, qu'on va retrouver dans certaines sociétés, qui refuseront donc cet outil du filet de pêche et ne voudront pêcher qu'au harpon. Alors qu'ils ont la possibilité matérielle de créer des filets de pêche. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de créer des stocks de poissons. Parce que s'ils créent des stocks de poissons, on va être en présence d'un surplus, donc, qui va pouvoir être accaparé par certains. En tout cas, ça va être un danger. Qui va devoir faire, sinon, l'obligation de règles de partage compliquées. Et donc, ces sociétés vont estimer que leurs besoins peuvent être satisfaits j'allais dire au jour le jour. C'est-à-dire que la nature va leur donner, hein, ils estiment que la nature leur procure à mesure des jours leurs besoins. Donc aussi bien l'école fonctionnaliste que marxiste, d'une part, ne vont pas prendre en compte les diverses manières d'envisager la notion de besoin en fonction des sociétés. Et d'autre part, ils ne vont pas envisager les diverses manières d'envisager le rapport à la nature. Puisque dans ces sociétés premières, la nature n'est pas un réservoir de ressources à exploiter. La nature n'est pas un réservoir de ressources à exploiter, mais la nature est constituée d'êtres vivants, alors plus particulièrement dans les sociétés animistes. La nature est constituée d'êtres vivants qui vont donner à l'homme ce dont il a besoin. Ces êtres vivants vont donner à l'homme ce dont il a besoin et sans plus dans les limites de ses besoins. Donc il va y avoir l'idée chez les humains de ces sociétés premières, notamment de ces sociétés animistes, eh bien qu'il faut rendre grâce à la nature et à ces êtres vivants. Ces animaux qu'ils représentent comme des esprits ou ces ressources naturelles comme des fleuves, ils vont rendre grâce à cette nature qui leur procure ce dont ils ont besoin. D'où l'idée notamment de sacrifice. Parce que le sacrifice, ça consiste à rendre grâce. C'est une forme de contre-don. Donc il y a un échange, une réciprocité. On n'est pas dans le schéma hein, de l'unilatéralité, c'est-à-dire l'homme qui va exploiter la nature, considérée comme inerte et sans volonté. Mais on est bien dans un échange réciproque entre des êtres. Du coup, le rapport à la technique s'en voit complètement modifié. La technique ne va plus être un simple instrument d'exploitation de la nature. Ça va davantage être un instrument de médiation. Donc pour qu'une technique, en tout cas, puisse exister, pour qu'elle puisse être inventée, il faut comprendre la technique comme un élément qui est enchâssé dans la société. Qui est enchâssé dans la société avec ses représentations, avec sa cosmologie, sa manière d'envisager le monde. En quelque sorte à la société, et parfois elle va pouvoir être considérée comme quelque chose d'extra-humain, hein, voire de divin. Bon. Alors là, l'utilisation de la technique va pouvoir encore différer d'une société à l'autre. Il y a un exemple. Qui est assez flagrant à ce niveau-là, c'est, dans le rapport aux politiques aussi, c'est la question de l'écriture. L'écriture comme moyen technique. Alors, dans les sociétés premières, on va dire souvent qu'il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture. Et ce qui va permettre à la société de fonctionner, de se représenter le monde, c'est l'oralité. C'est l'oralité, donc c'est la voix avant tout qui va être l'instrument technique par excellence. Et donc la voix, elle va permettre notamment de rappeler les fondations et les mythes de la société. La voix va permettre de rappeler la loi des ancêtres. Alors cette loi des ancêtres, hein, elle concerne tous les individus qui sont mis sur un même pied d'égalité. Dans les sociétés premières, on va dire que ce sont des sociétés qui ne sont pas divisées, hein, donc qui ne sont pas divisées dans deux sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas divisées socialement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas une partie de la société qui détient des moyens de production et une autre qui ne les a pas. Hein, puisqu'on va être dans des formes de... ce qu'un anthropologue qui s'appelle Marshall Salin s'appelait des sociétés d'abondance. Donc ce sont des sociétés qui estiment, hein, comme je vous le disais, que la nature leur procure ce dont ils ont besoin. Donc, ils travaillent 3-4 heures par jour et ça leur suffit. Il n'y a pas d'accumulation de stock, notamment. Et l'autre division qui est inexistante, c'est la division entre dominant ou dominé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas l'équivalent d'un État. Donc les individus obéissent à une loi impersonnelle, qui est la loi des ancêtres, mais cette loi, elle n'a pas de, elle n'est pas incarnée par une personne qui va avoir une volonté dite coercitive, c'est-à-dire qui va commander et qui peut punir. Alors, beaucoup de choses vont changer donc avec l'apparition de cet instrument technique qu'est l'écriture. Alors l'écriture, à l'origine, beaucoup de savants s'accordent pour dire qu'elle émerge en Mésopotamie. Et à la base, l'écriture va servir de système comptable. À l'origine, l'écriture, c'est avant tout une comptabilité. Donc, ça va servir à gérer des stocks. Justement, hein, il y a l'apparition, l'écriture émerge avec l'apparition de la notion de stock. Des stocks de blé, des stocks de marchandises, etc. Donc, l'écriture, elle va apparaître en même temps que l'apparition de classes sociales et que l'apparition de ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'un État, ou en tout cas d'administration, hein, donc qui, comme son nom l'indique, administre notamment des denrées alimentaires. Et donc cette écriture comptable, eh bien, il faut qu'elle soit maîtrisée par certains. Et donc il va y avoir l'apparition d'une classe ou d'un groupe d'experts. Donc ça va être des scribes. Hein, des individus qui sont capables de maîtriser l'écriture. Et donc ça, évidemment, ça leur procure un pouvoir très important. Et donc ces scribes ou ces personnes qui maîtrisent l'écriture, eh bien, vont faire partie soit d'une classe dirigeante, soit vont être en tout cas alliés à la classe dirigeante ou aux rois, aux empereurs, de manière notamment à gérer et à distribuer le stock. Alors un anthropologue que vous connaissez tous au moins de nom, qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, lui va dire que l'écriture est l'instrument technique par excellence de la domination. Disons que l'apparition de la notion d'écriture va aller de pair avec l'émergence de l'État et des classes sociales, comme je vous le disais. Alors qu'auparavant, on était dans des sociétés égalitaires, sans classe et sans État. Donc vous voyez là, l'influence, la détermination, en effet, que peut avoir un instrument technique sur la société, en rapport avec le politique. Alors, cette affirmation de Claude Lévi-Strauss, si on veut problématiser un petit peu la chose, elle est à nuancer. Elle est à nuancer pourquoi? Et alors là, c'est un autre, c'est un philosophe cette fois qui apporte cette nuance, qui s'appelle Claude Lefort. Vous en avez déjà un petit peu parlé, je crois. Lefort, L-E-F-O-R-T. Alors Claude Lefort, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le problème de la loi des ancêtres qu'on retrouve dans les sociétés premières, c'est qu'elle ne peut pas être remise en question. La loi des ancêtres qu'on retrouve dans les sociétés premières, c'est une loi immuable qui se perd dans l'origine des temps. Et vous avez toujours quelques vieux sages qui sont chargés de la rappeler. Du coup, on est dans des sociétés dont certains disent qu'elles ne sont pas encore entrées dans l'histoire, dans la mesure où elles n'ont pas. Elles se rattachent toujours à une fondation, à une origine. Les historiens des religions, comme Mircea Eliade, vont parler de conception du temps cyclique. Il s'agit toujours de revenir à l'origine. Et pour Claude Lefort, l'émergence de l'écriture va permettre de casser, en quelque sorte, cette idée de temps cyclique. Dans la mesure où l'écriture, en se surajoutant à la loi, va permettre des interprétations. Elle va permettre des critiques et des interprétations. À partir de l'écrit, il va pouvoir y avoir des interprétations des écrits. D'autre part, l'écriture va pouvoir faire l'objet de transactions secrètes aussi. Donc l'écriture va pouvoir faire travailler l'histoire souterrainement. Parce qu'autant dans l'oralité, on est toujours dans la transparence, il y a l'espace public, tandis que des écrits peuvent être cachés. Donc ambivalence par rapport à cette notion technique d'écriture dans ce rapport aux politiques. Parce que là, ce que va dire Claude Lefort, c'est que l'écriture va être un vecteur d'émancipation par rapport à la loi orale. Donc ce n'est pas uniquement un instrument d'oppression. Alors, si on veut filer un petit peu sur cette idée d'écriture, il y a d'autres exemples, dont un qui est, dont deux sont assez intéressants. C'est le changement dans la technique même de l'écriture. Il y a un moment dans l'histoire, on est vers moins 1800, où en Égypte, on va retrouver des traces de la constitution de ce qu'on va pouvoir appeler un alphabet. Hein, on va pouvoir retrouver des traces de ce qu'on va pouvoir appeler un alphabet. Alors qu'auparavant, il s'agissait avant tout d'idéogrammes. Donc vous aviez des milliers, voire des dizaines de milliers d'idéogrammes qui étaient appris et mémorisés par des élites. Parce que là, il fallait consacrer un sacré bout de temps pour pouvoir maîtriser l'ensemble de ces idéogrammes. Mais à un moment, vous avez une invention. Hein, donc en Égypte, on pense par des classes populaires, voire des esclaves, de l'alphabet. D'un alphabet d'une trentaine de lettres, et donc là, qui est très aisément maîtrisable et mémorisable. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir la possibilité d'une démocratisation de l'écriture. Et donc, là encore, hein, l'écriture ne sera plus uniquement un instrument d'oppression, puisque elle pourra être récupérée, accaparée aussi par les classes populaires. Alors comme ça, d'ailleurs, il y a un exemple très concret aussi. Alors j'ai plus le nom du roi exactement en tête, mais au XVe siècle, en Corée, il y a eu un roi. Qui voulait apporter l'écriture à son peuple. Hein, donc ça, c'était une chose assez peu courante, assez originale, puisqu'en règle générale, eh bien, les rois étaient entourés d'une élite qui gardait précieusement leur savoir concernant l'écriture. Et là, ce roi a voulu démocratiser l'écriture grâce là encore, à la création d'un alphabet. Puisqu'en Corée, en fait, ils étaient auparavant les héritiers d'idéogrammes chinois. Donc là encore, plusieurs dizaines de milliers d'idéogrammes qui étaient réservés à une élite. Bon. Et donc ce roi décide de démocratiser l'écriture avec cette création originale d'un alphabet. Alphabet qui demeure d'ailleurs toujours en Corée hein, la source de l'écriture contemporaine. Mais il se trouve que cette démocratisation de l'écriture n'a duré que durant son règne et a été interdite de nouveau. Tout de suite après sa mort par le nouveau souverain, hein, qui voyait ça comme quelque chose de beaucoup trop dangereux pour son pouvoir, pour son trône, avec cette idée hein, que que le peuple pourrait utiliser cet outil à des fins de récrimination envers son pouvoir. Bon. Donc il y a des... Il y a des percées aussi comme ça dans l'histoire hein, de certaines techniques qui vont avoir un impact politique très important. Alors, un débat aussi qu'il y a par rapport à la technique, c'est sur la question de ce qu'on appelle le diffusionnisme. Alors, le diffusionnisme, c'est quoi ? C'est cette idée que une invention technique a eu lieu à un moment donné dans l'histoire, dans un lieu précis. Et qu'en fait, c'est grâce aux échanges entre les humains que cette invention technique a pu se développer. À l'encontre de cette thèse, il y en a d'autres qui disent que souvent les inventions techniques ont pu émerger dans différents coins du globe sans qu'il y ait nécessairement d'échanges, et souvent à une époque, à une époque, à un moment souvent qui peut être similaire. Donc ça, c'est deux écoles qui vont pouvoir s'opposer, et souvent, bien évidemment, comme en sciences humaines, il y a l'idée que finalement, il y a toujours un petit peu des deux. Bon. Donc, il y a l'idée que dans toute société, toute société va assembler des éléments, fabriquer des outils pour construire un monde habitable. L'outil, ça va être aussi l'idée d'un monde habitable, mais qui là aussi va renvoyer à des représentations de ce monde. Ils vont renvoyer à des représentations de ce monde. Alors vous avez un auteur comme Castoriadis, qui lui va parler de l'institution imaginaire de la société. L'institution imaginaire de la société, c'est-à-dire que les outils techniques s'inscrivent dans les schémas imaginaires qu'une société s'est donné. Les outils techniques s'inscrivent dans les schémas imaginaires qu'une société s'est donné. Donc, une technique n'a pas une finalité en soi. Une technique n'a pas une finalité en soi, elle va avoir une finalité en fonction de l'imaginaire que la société s'est donné. La technique va avoir une fonction en fonction de l'imaginaire que la société s'est donné. Alors avec cette controverse, encore cette problématique de savoir est-ce que c'est la technique qui va déterminer cet imaginaire ou l'imaginaire qui va déterminer la technique. Si on prend par exemple la question de l'habitat, précisément, habiter le monde. Certains vont dire, par exemple, que les nomades, avec leur habitat, c'est-à-dire une tente, pour faire vite, imaginons une tente, eh bien cet habitat qu'elle attend va déterminer leur conception du monde. Elle va déterminer leur conception du monde dans la mesure où il n'y aura pas de véritable séparation entre le ciel et la terre. Il n'y aura pas véritablement de frontières. Cette tente va être mobile. Il va pouvoir la plier et la porter sur son dos. Alors, est-ce que c'est la tente qui va déterminer la manière de penser du nomade? Ou est-ce que c'est le nomade, avec sa conception du mouvement et de son rapport au territoire, qui va créer la tente en fonction de son imaginaire? Et on trouve la même problématique avec le sédentaire. Le sédentaire, avec sa maison, eh bien, il va créer une séparation entre le ciel et la terre, hein, qui est le toit, et il va poser des frontières, des limites au territoire sur lequel est construite sa maison. Très vite, dans l'histoire de l'habitat, d'ailleurs, il va y avoir des bornes sacrées, hein, autour des maisons, vers lesquelles on a desquels on n'a pas le droit de franchir. Donc avec la notion de maison, on a déjà la notion de frontière qui va se concevoir. Et donc là encore, hein, est-ce que c'est la maison qui va déterminer l'imaginaire du sédentaire ou l'inverse ? Donc, un philosophe encore, hein, comme Castoriadis, insiste sur le fait qu'il faut rapporter chaque fois les techniques au noyau imaginaire qui organise le monde. Et donc, à partir de là, on peut imaginer deux scénarios pour expliquer l'évolution des techniques. Deux scénarios par rapport à la notion d'imaginaire. Alors tout d'abord, on peut considérer que l'invention de la technique va constituer une rupture. Une rupture par rapport au régime de la société précédente. On va pouvoir considérer qu'il y a une rupture. On va estimer que la technique qui précédait ne correspond plus à notre vision de la société ou notre vision du monde. Elle ne correspond plus à l'imaginaire social. Donc il va falloir créer une nouvelle technique. Ah, donc dans ce premier scénario, il y a l'idée d'une rupture où chaque technique va correspondre à une société en particulier et son imaginaire. Le deuxième scénario, c'est quand une société va créer un imaginaire où il peut y avoir une remise en cause perpétuelle des techniques. Une société va créer un imaginaire avec la possibilité d'une remise en cause permanente des techniques. Et cette société avec cet imaginaire bien particulier, eh bien c'est la nôtre. Et là va se poser une question. C'est la question de l'autonomie de la technique. La question de l'autonomie de la technique, puisqu'il se trouve que dans les sociétés qui précèdent la modernité, la technique est toujours enchâssée dans des imaginaires, dans des significations qui imposent des limites aux techniques. Dans les sociétés prémodernes, il y a toujours des systèmes imaginaires qui vont imposer des limites aux techniques, souvent pour des raisons morales et religieuses d'ailleurs. Mais il y a l'idée que la technique est toujours très, très encadrée. Un exemple très trivial en ce qui concerne les techniques de guerre. Il y avait cette idée au Moyen-Âge que l'arbalète, par exemple, était un instrument de guerre qui n'était pas licite. C'est un instrument de guerre qui n'était pas considéré comme légitime, donc dans la mesure où on estimait qu'elle ne respectait pas les règles d'un duel juste. Bon. Alors après, se poser la question de savoir est-ce que cette interdiction avait une valeur effective ou pas. Bon, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a cette idée que les normes des sociétés prémodernes vont encadrer de manière drastique les techniques par le religieux et la morale. Alors avec aussi, et ça va de pair, toujours ce rapport à la nature, c'est-à-dire que dans les sociétés prémodernes, la nature ne se réduit pas, là encore, à un réservoir de ressources. Y compris dans le christianisme, qui est un petit peu la phase de transition entre l'Antiquité et la modernité, mais y compris dans le christianisme, la nature est un don de Dieu. La nature est un don de Dieu qu'il a confié aux hommes. Donc, a priori, l'homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut de la nature. Donc, le grand changement, ça va être en fait... avec l'émergence de la modernité, ce qu'on va appeler le dualisme cartésien, le dualisme cartésien avec cette idée qu'il faut une maîtrise rationnelle de la nature, une maîtrise absolue, une maîtrise absolue. Alors, en cela, Descartes va continuer l'œuvre de scientifiques comme Galilée, qui étaient aussi des philosophes. Et il y a cette idée qui va être très importante, y compris pour le contemporain, que la nature peut être mise en équation. Donc ça va être avant tout un objet. La nature peut être mise en équation. Et il va y avoir aussi la représentation de la nature comme une machine. Hein, donc comme quelque chose qui, d'une part, peut être l'objet d'une maîtrise de l'homme et ne relève pas d'une volonté. Elle n'est pas constituée d'être avec une âme. Et d'ailleurs, un point significatif, c'est que le rapport aux animaux va considérablement changer avec ça. Au Moyen-Âge, les animaux sont encore considérés comme des sujets de droit. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans la première séance, avec cette idée que les animaux peuvent être jugés. Avec cette émergence de la modernité au XVIe, XVIIe siècle, il y a un glissement radical avec cette idée que non seulement l'animal n'est pas un sujet de droit, mais c'est un objet dépourvu de toute sensation, autrement dit, c'est une machine. Donc on passe, j'allais dire, presque du tout. Alors, je vous cite Descartes quand même, parce que c'est très, très significatif. Alors il dit, pour assigner une place aux êtres vivants et pour en expliquer le fonctionnement, il n'y a qu'une alternative. Ou bien les êtres sont des machines dans lesquelles il n'y a à considérer que figures, grandeurs et mouvements, ou bien ils échappent aux lois de la mécanique, mais alors il faut renoncer à toute unité, à toute cohérence dans le monde. Devant ce choix, ni les philosophes ni les physiciens ne sauraient hésiter. Toute la nature est machine, comme la machine est nature. Je vous le répète, pour assigner une place aux êtres vivants et pour en expliquer le fonctionnement, il n'y a qu'une alternative. Ou bien les êtres sont des machines dans lesquelles il n'y a à considérer que figure, grandeur et mouvement, ou bien ils échappent aux lois de la mécanique. Mais alors il faut renoncer à toute unité, à toute cohérence dans le monde. Devant ce choix, ni les philosophes ni les physiciens ne sauraient hésiter. Toute la nature est machine, comme la machine est nature. Alors, cette image de la machine, elle va avoir un succès phénoménal au XVIIIe et au XIXe siècle. Puisque la machine, eh bien, va considérablement se développer, notamment au XIXe siècle. Et là, on va assister à une forme de paradoxe dont les philosophes, les penseurs politiques, les économistes commencent déjà à pointer. Parce qu'il y a cette idée, quand même, à l'origine, que la technique permet la maîtrise totale de la nature. Bon, ça, on est d'accord. Mais va très vite advenir un problème qui est lié à cette idée, c'est que paradoxalement, à mesure que l'homme crée des inventions techniques pour mieux maîtriser la nature, eh bien cette technique échappe à l'homme. Non. Hein, à mesure que l'homme crée des techniques pour maîtriser la nature, eh bien cette technique lui échappe peu à peu. Alors, ça va de pair en fait à quelque chose dont on commence à voir véritablement tout le potentiel et les problèmes philosophiques, politiques que ça peut rencontrer. Cette autonomisation de la technique, en fait, elle va de pair avec ce que nous on appelle trivialement la robotisation, l'idée de robot. Alors déjà, les premiers penseurs politiques du début du XIXe siècle, ils commencent en fait à voir que les travailleurs, eh bien, ils maîtrisent de moins en moins leur outil de production. Encore au XVIIe, XVIIIe siècle, vous aviez cette idée que le travailleur, c'était soit l'artisan, soit l'agriculteur. Donc en fait, il maîtrisait très bien, notamment grâce à sa main, il maîtrisait très bien sa production et il voyait le produit fini de sa production. Soit grâce aux récoltes, soit grâce aux produits manufacturés qu'il avait créés de sa main en tant qu'artisan. Bon, mais avec la création des usines, des chaînes de montage, eh bien, en fait, le travailleur va devenir lui-même, en fait, eh bien, un outil technique parmi d'autres. Et en réalité, il ne maîtrise pas grand-chose. Donc il y a peut-être quelques technocrates, quelques patrons qui ont une vue d'ensemble de la production. Mais le travailleur individuel, singulier, qui fait partie des chaînes de montage, lui, il va devenir, alors c'est le mot des socialistes de l'époque, hein, on va dire qu'il devient aliéné, c'est-à-dire étranger à lui-même. Donc il y a le même terme pour les fous, hein, quand on dit qu'un tel est un aliéné, hein, dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire quelqu'un qui est étranger à lui-même. Autrement dit, qui n'a plus la maîtrise de soi. Il y a une perte de maîtrise dans la notion d'aliénation. Alors cette idée d'autonomisation de la technique, elle va se développer notamment avec l'idée des machines à vapeur. Parce que là, pour la première fois, je veux dire dans l'histoire de l'humanité, on pourra y vérifier, mais en tout cas à cette échelle, c'est la première fois qu'on a l'idée ou l'illusion ou l'impression qu'une machine est autonome. Et donc c'est avec le feu qu'elle produit grâce au charbon qu'une machine va pouvoir fonctionner. Alors qu'auparavant, y compris les péniches sur la Seine, elles étaient tractées. Elles étaient tractées par des hommes ou des animaux. Donc il y avait un rapport charnel, physique. Là, il y a cette idée que la machine, eh bien, s'émancipe de l'homme, dans une certaine mesure. Donc cette idée hein, de robotisation, elle date pas d'hier, hein, elle date de plus de deux siècles, en fait. Alors cette idée hein, d'autonomisation de la technique, elle va se développer jusqu'à aujourd'hui avec des accélérations plus ou moins importantes. Dans les années 50, notamment, il y a tout un mouvement intellectuel et technique qui est le courant de la cybernétique. Le courant de la cybernétique qui va donner lieu à terme, en fait, à tout ce qui va relever de l'informatique. Et donc, ces théoriciens de la cybernétique, alors il y a un auteur notamment qui s'appelle Norbert Wiener, W-I-E-N-E-R. Norbert Wiener. Ça vous dit quelque chose ou pas? Cybernétique et Wiener? Non? Levez la main ceux à qui ça dit quelque chose? Bon, il n'y a pas grand monde. Ok, très bien, bah, je vous aurais appris un truc. Norbert Wiener, donc, et qui a écrit un petit bouquin d'ailleurs, qui a été traduit aux éditions de l'Éclat, si ça intéresse certains, qui s'appelle Golem.inc. Golem.inc. Où il reprend cette figure hein, du golem. Hein. Le golem, je vous le rappelle, hein, c'est cette créature qui avait été façonné par un rabbin à Prague vers le XVIe siècle. Et ce rabbin gravait une lettre sur cette statue d'argile qui est le golem, une lettre en hébreu qui veut dire la vie, et ça animait le golem. Bon. Et à un moment, eh bien, comme Frankenstein, hein, le golem arrive à s'enfuir dans Prague, il fait pas mal de dégâts et à un moment eh bien, le rabbin arrive à retracer un trait sur le front du golem de manière à ce que la vie se transforme en mort et il revient inanimé. Bon. Mais il y a cette idée que, notamment grâce aux signes, hein, vie et mort, eh bien, on peut animer des éléments matériels. Bon, ça peut paraître très abstrait comme ça, mais dans la cybernétique, hein, Norbert Wiener, il va dire que ce qui est fondamental, en fait, et d'ailleurs comme sa racine aussi du terme informatique, derrière informatique, il y a information. Ce qui va être fondamental, c'est la notion d'information. Et donc, l'information, en quelque sorte, eh bien, va être la matière première des nouvelles techniques à venir. Les nouvelles techniques à venir, alors à la fois pour les animer, mais ça va être aussi une matière première en termes économiques. Donc ça ne va plus être les matières premières au sens hydrocarbures, etc. Mais ça va bien être l'information. Et là, on est dans les années 50-60. Et donc, en fait, ce qu'il appelle les informations, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui les data. Euh, c'est toutes les informations qui font marcher aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie numérique. Hein, et qui vont avoir une certaine forme d'autonomisation aussi. Alors, il y a un exemple, notamment en finance, de cette idée de cybernétique où l'information est centrale. C'est ce qu'on appelle le trading haute fréquence. Hein, le trading haute fréquence. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le trading haute fréquence? Que certains voient ce que c'est? Ouais, vite fait. Bon. Le trading haute fréquence, en fait, c'est l'idée que grâce à un nombre d'informations suffisant, eh bien, des logiciels doivent être en mesure de passer des ordres de marché de la manière la plus rapide possible. De manière à grappiller un minimum de marge sur chaque transaction et à terme pouvoir accumuler suffisamment d'argent. Donc les ordres ne sont pas passés par les humains. Ça va être des transactions automatiques. Et ça, ces flux, ces marchés de trading haute fréquence, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Il y a quelques années, il y a encore 5-6 ans, on était à 30-40% de l'ensemble de la masse des transactions financières. Donc c'est énorme et ça se voit de manière exponentielle. Donc il y a cette idée aussi très concrète de l'autonomisation de la finance. Mais pas que, il y a des formes d'autonomisation de toutes sortes. Donc du coup, vous voyez ce paradoxe de comment l'homme, par ses multiples inventions techniques, entend maîtriser la nature, où en effet, il découvre ses secrets, il maîtrise de plus en plus de choses, mais en même temps, cette technique a tendance à lui échapper. Et typiquement, pour cette... Si on prend l'exemple du trading haute fréquence, il devient très compliqué de voir comment on peut remettre la main dessus, au sens politique du terme. Alors certains auteurs parleront de ce qu'on appelle le techno-pouvoir. Pouvoir de la technique. Alors, un des auteurs les plus importants en ce qui concerne cette critique de la technique, c'est un auteur français qui s'appelle Jacques Ellul. Jacques Ellul, E-L-U-L. Jacques Ellul, qui va écrire plusieurs ouvrages sur la question, et notamment un grand livre qui date de 1954, qui s'appelle « La technique, enjeu du siècle ». La technique, enjeu du siècle. Alors pour lui, Ce n'est pas l'économique qui va déterminer le monde. Ce n'est pas la politique. Mais dans la modernité, c'est véritablement la technique. Et alors lui, il explique l'autonomisation de la technique par cette idée qu'en voulant désacraliser la nature, la modernité c'est avant tout la désacralisation de la nature, eh bien l'homme qui est avant tout aussi un animal attaché au sacré, en désacralisant la nature, il va sacraliser la technique. Il va considérer que la technique a une dimension sacrée qui ne peut pas être remise en cause. Et donc, il va être conçu comme une sorte de dieu, avec certains qui auront une certaine forme de religion de la technique. Alors, à son époque, ça n'existe pas encore, mais... Il considérerait sûrement que de nos jours, ce qu'on appelle les transhumanistes sont des sortes de prêtres de religion de cette technique. Donc il y a l'idée chez lui que la technique n'est pas neutre. La technique n'est pas neutre, elle va être porteuse d'un pouvoir et d'un rapport au monde. D'un rapport au monde qui, selon lui, est d'ordre prométhéen. Vous vous souvenez de Prométhée dans les mythes antiques, Prométhée qui désire voler de ses propres ailes et qui se les brûle en approchant du soleil. C'est Icare, pardon. Mais voilà, pour lui, c'est l'équivalent d'Icare. Non. Avec une dimension prométhée. On s'en sort comme on peut. Alors, pour lui, il y a quelque chose de... qui va relever du fait que l'homme, en fait, avec la technique, a tendance à transgresser toutes les limites qui peuvent lui permettre de vivre en société. Puisqu'avant la modernité, je vous disais que la technique, elle était toujours enchâssée dans des systèmes imaginaires qui permettait de mettre des limites à la technique. Donc limites d'ordre matériel, moral, etc. Mais dès lors que la technique est prise comme finalité pour elle-même, eh bien il n'y a plus de limites possibles. Et donc le problème des sociétés contemporaines, dit-il, c'est que son seul imaginaire va relever de cette volonté de maîtrise rationnelle de la nature. Et cette maîtrise rationnelle de la nature, elle ne va pouvoir passer que par la sacralisation de la technique. Donc là, la technique ne sera enchâssée dans rien du tout, puisque c'est la technique qui sera l'imaginaire par excellence. La technique, c'est ce qui va légitimer le pouvoir. Et ça, c'est la première fois dans l'humanité. Auparavant, ce qui légitime le pouvoir, là encore, c'est une signification imaginaire. Ça pouvait être, là encore, la religion, les dieux, une dimension morale, en tout cas quelque chose qui qui relevait d'une transcendance ou d'une idéologie hein, qui, là encore, limitait la technique. Tandis que là, c'est uniquement la technique qui va légitimer le pouvoir. Sachant que le pouvoir lui-même est une forme de technique. Le pouvoir pour le pouvoir n'a pas un grand intérêt. En règle générale, eh bien, on use d'un pouvoir pour une fin en particulier. Mais on n'use pas d'un pouvoir pour le pouvoir. Et là, le problème, dit-il, c'est que la seule légitimité du pouvoir, ça va être la technique. Et qu'on va retrouver notamment avec l'explosion de ce qu'on appelle l'expertise. Hein, les experts, c'est ça. Ce sont des experts de la technique. Mais là encore, quelle va être la finalité de cette technique ? Eh bien, il n'y en a pas. Ça va être la technique pour la technique. D'où le fait que les hommes politiques soient un petit peu perdus et souvent un peu en chien de faïence par rapport aux experts. Parce que, en réalité, les hommes politiques, ils vont chercher chez les experts une orientation. Ils vont chercher une finalité. Ils vont consulter les experts pour savoir où aller. Alors qu'auparavant, eh bien, le pouvoir, les hommes politiques s'entouraient d'experts de manière à avoir les informations requises pour aller ou pour faire quelque chose de bien précis qu'ils avaient déjà en tête. Donc l'expertise était simplement un moyen. Mais ça ne leur servait pas pour trouver une fin. Alors, cette technique, elle va se retrouver aujourd'hui beaucoup dans ce qu'on, notamment dans les réseaux sociaux. Cette nouvelle économie du numérique. Avec une dimension économique très importante par rapport aux data, par rapport aux données. Bon. Et un rapport à la psychologie sociale que d'aucuns diront que ça relève d'un contrôle. Alors, il y a des expériences sociales qui ont été faites sur le rapport des individus à la production de la dopamine. La dopamine, vous savez que c'est cet excitant qu'on sécrète. Alors, il y a des expériences qui ont été faites sur des singes où on leur proposait une récompense à chaque fois qu'ils appuyaient sur un bouton. Donc un singe pouvait obtenir une boisson chaque fois qu'il appuyait sur un bouton. Et donc au début, il y avait une certaine sécrétion de dopamine chez ce singe. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, ce taux de dopamine a commencé à chuter. Et donc, il n'était plus vraiment intéressé par cette technique, hein, du bouton qui lui permettait de satisfaire ses besoins. Donc, là encore, hein, problématique principale, hein, la question de la technique, hein, le bouton, et le rapport aux besoins, dont je vous parlais en début de séance. Bon, alors, les savants, ils se sont dit, on va tester une variante pour faire en sorte que ce singe, eh bien, change son comportement. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un système qui fasse en sorte que quand le singe appuie sur le bouton, eh bien, il n'est pas automatiquement une boisson. Et donc, il arrivait, hein, que le singe puisse obtenir cette boisson après 6, 7, 8 fois où il aura pressé le bouton. Autrement dit, la récompense était aléatoire. Récompense aléatoire et pas automatique. Alors là, ce qu'ils ont observé, eh bien, c'est que le singe restait devant le bouton à appuyer comme un dingue sans arrêt. Et donc, certes, au bout d'un moment, il avait sa boisson. Mais une fois qu'il l'avait bu, eh ben, il continuait à appuyer comme un dingue sur le bouton pour en avoir une autre. Et donc, il n'avait plus de seuil de satiété. Il n'y avait plus de limite. Le singe ne voyait plus la limite qu'il pouvait se donner lui-même, comme ça pouvait être le cas lorsqu'il y avait une réponse automatique auparavant, quand il appuyait sur le bouton. Au bout de deux boissons, ça lui suffisait. Et donc, ses besoins étaient satisfaits. Parce qu'il avait une maîtrise aussi de ce rapport, hein, technique-besoin. Mais dès lors qu'il n'avait plus la maîtrise, autrement dit que la récompense était aléatoire, eh bien, ses besoins ont explosé. Et par là même, son taux de dopamine. Et donc, dès lors qu'il obtenait une boisson, dans ce deuxième cas de figure, eh bien, son taux de dopamine, hein, explosait. Et donc, vous avez des créateurs de réseaux sociaux, hein, comme Facebook, par exemple, bah, qui expliquent qu'en fait, ils ont pris modèle sur ce genre d'expérience. Et notamment toutes les notifications, hein, qui existent sur ces types d'appareils, enfin sur nos smartphones, etc. Que ce soit des commentaires, des notifications d'événements, de nouveaux produits par les publicités, etc. Eh bien, vont faire considérablement grimper le taux de dopamine de chacun et aussi les besoins. Alors, besoin qui ne relève pas que du besoin matériel, hein, même si c'est inclus. D'où le fait que vous avez énormément d'entités économiques, hein, d'entreprises qui font de la publicité sur ces réseaux. Mais ça va être aussi des besoins de reconnaissance, par exemple. Quand vous avez des posts qui sont commentés, des photos likées, etc. Et là, il y a une augmentation du besoin de reconnaissance qui va avoir lieu. Augmentation du besoin de reconnaissance qui va être liée à cette distanciation du lien qu'il y a entre la technique et sa maîtrise. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas maîtriser, hein, le nombre de likes ou de commentaires que vous allez avoir. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Un dernier point si, sur cette question de la relation à la maîtrise. Ça me fait penser à un film qui date un petit peu maintenant. Qui s'appelle Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Personne? Si, un petit peu? Non? Alors ça date, hein, ça doit dater de, je sais pas, il y a une cinquantaine d'années, c'est un vieux truc maintenant, surtout vous êtes jeune génération, avec, qui est avec Belmondo. Alors, vous voyez, ça date. Ça vous dit quelque chose quand même, Belmondo. Bon. Alors ce film, en fait, c'est l'histoire d'un milliardaire qui se balade en baie de Chine sur un bateau et qui n'arrête pas d'essayer de se suicider. Hein, il en a marre de la vie, il trouve que ça n'a aucun intérêt. Et il se trouve qu'il y a son l'équivalent de son précepteur qui à la fin, bon, on a un petit peu marre qu'il essaie de se suicider, à chaque fois il se loupe en plus. Et lui dit, écoute, tu veux vraiment te suicider, tu veux mourir? Bon. Lui il répond, bah oui, je veux mourir. Bon. Donc lui, le précepteur, il répond, ok, tu vas mourir. Bon. Il est un petit peu étonné. Et le précepteur lui dit, tu vas mourir, mais tu ne sauras ni l'heure ni le lieu. Et il s'en va. Et donc, à partir de là, en fait, eh bien, le héros, donc Belmondo, là, il va avoir un taux de dopamine qui va exploser. Et en fait, tout seul, eh bien, il va s'accrocher à la vie. Et par son imaginaire, eh bien, il va concevoir tout un tas de situations où il serait potentiellement, en fait, menacé dans sa vie. Et ça va le faire s'accrocher hein, terriblement à sa vie qu'il va imaginer menacer. Mais parce que là encore, il n'aura plus la maîtrise des choses. Il n'aura plus du tout la maîtrise des choses. Mais alors du coup, là, vous voyez l'ambivalence aussi. Hein, c'est-à-dire que là, l'ambivalence est le possible paradoxe. C'est-à-dire que l'homme, par rapport à la technique, va avoir envie à la fois de maîtriser totalement les choses, de maîtriser totalement la nature, et en même temps, cette volonté hein, de dopamine pour avoir l'impression d'être encore vivant, qui va de pair avec le fait que il ne peut pas tout maîtriser. Alors donc c'est pour ça aussi que Castoriadis il parle dans le projet moderne de maîtrise pseudo-rationnelle, parce qu'en fait la maîtrise rationnelle au sens absolu et total est évidemment illusoire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. S'il y a des questions ou des remarques, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.